Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le retour au pouvoir du mouvement taliban 20 ans après plonge une partie de la population afghane dans l'incertitude. Ayant d'ores et déjà annoncé l'application stricte de la charia en lieu et place du droit civil, quel sort les étudiants en religion réservent-ils aux femmes, aux minorités religieuses ou sexuelles, aux journalistes et à tous ceux qui ont travaillé avec le gouvernement précédent, militaires, policiers ou fonctionnaires? Quelques éléments de réponse avec Guillaume Fourmont, dont la revue Moyen-Orient qu'il dirige a consacré un dossier spécial à l'Afghanistan au printemps 2019. À suivre la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Guillaume Fourmont.
Bonjour Éric Bataillon.
La revue trimestrielle Moyen-Orient, dont vous êtes le rédacteur en chef, avait consacré son numéro 42 en avril-juin 2019 à l'Afghanistan. Guillaume Fourmont, compte tenu de ce que l'on connaissait de la présence des talibans sur le terrain afghan, notamment dans les campagnes et les provinces reculées du Sud, leur prise de pouvoir était-elle, selon vous, inéluctable?
Alors, en 2019, lorsque le numéro est paru, il était évident, pour énormément d'analystes, que les talibans étaient d'une part une réalité de pouvoir, d'exercice du pouvoir sur le terrain afghan, et d'autre part, c'était la principale force de négociation avec les États-Unis. Le gouvernement central de Kaboul était exclu de ces négociations bilatérales avec les Américains, donc on savait que les talibans avaient marqué un point diplomatique très fort en étant la principale voie de négociation lors de ces fameux sommets de Doha. Et donc on savait que leur prise de pouvoir à Kaboul dès 2019, on savait que c'était dans l'air du temps. Les médias se sont étonnés d'une prise si rapide de Kaboul. Ceux qui connaissent l'Afghanistan et qui suivent son actualité depuis quelques années ne s'en sont en revanche guère étonnés.
Et qu'est-ce que la gestion du pays par les talibans devrait ou pourrait changer pour les citoyens afghans?
Alors, il faut distinguer différentes choses. D'une part, les talibans ont, en quelque sorte, réfléchi à la construction d'un État pendant leur combat militaire contre la coalition internationale et les Américains. Ils ont profité de l'absence de l'État central, de la corruption généralisée des tribunaux, des administrations publiques et de la défaillance de l'armée pour instaurer eux-mêmes un pouvoir politique, un pouvoir administratif, avec notamment des tribunaux. Les tribunaux talibans, installés dans la majorité des provinces du pays, notamment dans le sud, étaient considérés comme très efficaces et incorruptibles. Et donc, les Afghans aller depuis maintenant plusieurs années auprès de ces tribunaux, dont les juges sont généralement des oulémas ou des gens extrêmement bien formés en religion, pour régler des problèmes essentiellement fonciers, matrimoniaux, vraiment la base du droit civil que la justice afghane centrale ne résolvait pas, principalement à cause de la corruption. Donc ça, c'est d'une part, il faut bien voir que les talibans ont réussi à instaurer une administration dans plusieurs endroits du pays. En revanche, donc j'en venais au second point, il faut distinguer. Les talibans restent les talibans. C'est-à-dire que même si le New York Times ouvre ses colonnes à un porte-parole des talibans en février dernier en disant ce que nous voulons, un texte paru dans le journal américain en anglais, derrière ça, il y a quand même un programme. Les talibans restent des gens, je parle de l'élite, des gens très bien formés dans des madrassas néo-bandis, notamment au Pakistan. Et donc, ils ont une connaissance du religieux extrêmement précise et surtout une vision très stricte, orthodoxe de la religion, et ça reste quand même la base de leur programme, c'est-à-dire la charia. Il ne faudra pas du tout s'étonner si la justice répond à la charia, amputation, lapidation, exécution. Et ça, de toute façon, j'en reviens à mon premier point, les talibans opéraient déjà ce genre de condamnation, de peine, depuis de leur prise de pouvoir à des échelles locales ces dernières années. Donc ça, il ne faudra pas s'étonner si les talibans instaurent le droit islamique comme ils l'ont appliqué pendant leur premier régime et aujourd'hui depuis quelques années.
Mais lorsque les talibans, les leaders de mouvements, multiplient les signes de bonne volonté et d'apaisement, loin de leur pratique lorsqu'ils gouvernaient le pays à la fin des années 90, est-ce que ces signes de bonne volonté, on peut les croire aujourd'hui ou bien il faut être plus circonspect?
Alors, les talibans ont appris de leurs erreurs passées. Le régime dirigé par le Mollah Omar entre 1996 et 2001 était extrêmement fermé et radical. Ensuite, le Mollah Omar a fait une erreur en accueillant Al-Qaïda et son dirigeant Osama Ben Laden suite aux attentats du 11 septembre. Les talibans ont appris de ces erreurs. Et donc, ils vont envoyer des signes de bonne volonté auprès de la communauté internationale, par exemple en proposant une amnistie de tous les fonctionnaires, de tous les militaires ayant servi le régime passé. Ça, d'une part, parce qu'ils en ont aussi besoin. Hein, on a vu d'ailleurs les images et les vidéos de Kaboul depuis le 15 août dernier sont impressionnantes, puisqu'on voit tout simplement les talibans défiler sur les chars de l'armée afghane. D'accord ? En revanche, ils sont aussi dans une position de faiblesse. Leur victoire politique, entre guillemets, ou médiatique, le 15 août, avec leur entrée dans Kaboul, ne doit pas faire oublier que les talibans sont considérés comme une organisation terroriste. Le pays a complètement perdu tous ses fonds des prêts internationaux, que ce soit les Américains, que ce soit le Fonds monétaire international. Toute la communauté internationale est en train de retirer les fonds. Et du coup, les talibans sont dans une position où ils vont devoir montrer bonne figure au moins auprès de la communauté internationale, sans renoncer à leur programme à l'intérieur même des frontières. Et donc, ils font preuve de bonne volonté. Il faudra, par exemple, ne pas s'étonner si les talibans font eux-mêmes le ménage en Afghanistan auprès de Daesh, auprès de tous ces mouvements, de tous ces miliciens armés extrémistes. Car rappelons-le, les talibans sont avant tout un mouvement islamiste nationaliste. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Garder le pouvoir. Et maintenant, ils l'ont. Et à l'intérieur des frontières de l'Afghanistan. Les talibans, même si au niveau mondial, reste l'organisation terroriste la plus violente, c'est-à-dire qu'elle est, depuis 1979, c'est-à-dire que depuis que le pays est en guerre, les talibans restent de loin le premier groupe terroriste en Afghanistan. Eh bien, maintenant qu'ils sont au pouvoir, cela devrait sans doute se calmer. Et surtout, les talibans n'ont jamais dit, à la différence de Daesh, par exemple, qu'ils allaient attaquer ailleurs. Non, non. Nous, ce qu'on veut, c'est garder le pouvoir à l'intérieur du pays.
Et parmi les personnes visées par la lecture rigoriste du Coran que font les talibans, qui vous paraît être aujourd'hui en première ligne ? Est-ce que ce sont les femmes ? Est-ce que ce sont les universitaires, les journalistes ? Les minorités aussi, qui sont nombreuses, ethniques, religieuses ou sexuelles ?
Oui, bien évidemment. Alors ça, nous allons surtout le voir dans les villes, notamment Kaboul. Kaboul est une ville qui n'a rien à voir avec celle de 96. Aujourd'hui, Kaboul, c'est une ville de plusieurs millions d'habitants, avec une vie, avec des cybercafés, avec des cafés, des restaurants, c'est des artistes, des journalistes, des femmes vont à l'école, à l'université, il y a une université américaine. Donc tout le défi aujourd'hui des talibans, non seulement c'est de diriger un pays de 38 millions d'habitants, mais aussi de gérer une ville comme Kaboul. Et donc on va voir, là on doit être en pleine négociation pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans des grandes institutions comme l'université. Les femmes vont-elles pouvoir aller à l'université ? Les femmes vont-elles pouvoir continuer à, je dis un exemple un peu idiot, mais présenter une émission de radio ou une émission de télé ? Donc effectivement, les femmes qui ont vécu un véritable enfer entre 96 et 2001 sont bien évidemment les premières visées, les premières attentives à voir ce qui va se passer. Maintenant, dans les campagnes, c'est un petit peu paradoxal, dans les campagnes, les femmes sont les premières à être en retrait, puisque l'Afghanistan reste un pays extrêmement rural, mais on a bien vu de toute façon les talibans dire haut et fort, les femmes, vous restez à l'intérieur des maisons, vous ne sortez pas, vous mettez le voile. On l'a bien vu, certaines femmes qui sont en exil ou qui ont pignon sur rue à Kaboul pendant cette période de transition où les départs étaient encore autorisés, ont déjà averti. Regardez, il suffit de regarder les images à l'aéroport ou aux alentours de l'aéroport, il n'y a plus aucune femme. Donc bien évidemment, ce qui était autorisé ces dernières années, on va voir les talibans, comment ils le gèrent à l'intérieur du pays, et ça peut aussi faire partie de ces concessions à la communauté internationale. Oh, regardez, on a nommé une ministre femme. Oh, regardez, on a nommé un Hazara chiite ministre. Ils vont peut-être s'orienter là-dessus, et la force des talibans, c'est qu'ils sont extrêmement unis. C'est un corps assez collégial, on ne distingue pas le corps politique du corps armé, c'est un tout, et ils sont assez respectueux, disons, du pouvoir d'en haut. Il suffit de donner un exemple. Toutes ces dernières années, dès qu'il y a des élections en Afghanistan, de président ou de parlement, d'abord les élections ne sont pas suivies par les Afghans, et ensuite tous les candidats disent « c'est moi qui ai gagné, non c'est toi, c'est moi », ils se bataillent, personne ne se reconnaît. Quand un gouverneur démissionne dans telle ou telle province, on se tire dans les pattes. Et talibans, depuis la mort du Mollah Omar, c'est « alors maintenant c'est un tel qui dirige, ok, maintenant c'est un tel qui dirige, ok ».
On sait néanmoins, Guillaume Fourmont, que le mouvement taliban n'est quand même pas homogène. Sa branche qui était réfugiée au Pakistan autour de la tribu Haqqani est, elle, proche d'Al-Qaïda. Et puis, il y a la présence, évidemment, de l'État islamique, qui est un groupe constitué pour partie de talibans ayant fait défection à partir de l'année 2014. N'y a-t-il pas un risque de durcissement du régime sous cette double influence, Al-Qaïda et État islamique ?
Alors oui, l'État islamique est une vraie menace, à la fois pour l'Afghanistan et les Afghans, mais aussi pour les talibans, puisque c'est son principal ennemi intérieur, un ennemi qui ne contrôle pas. Malheureusement, le terrible attentat du 26 août dernier aux abords de l'aéroport l'a prouvé. C'est-à-dire que si les talibans n'assurent pas la sécurité, ils peuvent être soumis à tout type de dérives de ces groupuscules armés. On ne sait pas très bien. On considère que les groupuscules rattachés à l'État islamique sont plutôt dans le nord-est du pays, à la frontière du Pakistan. En revanche, je pense que dans les hautes sphères politico-militaires, au sein même des talibans, il y a des négociations. Et certes, le réseau Haqqani a été proche d'Al-Qaïda, mais Sirajuddin Haqqani, qui est donc le fils d'un de ces grands chefs de guerre Haqqani, qui avait lutté contre les soviétiques avant de se rallier aux talibans, reste un élément central, à la fois pour négocier avec ces supposés réseaux Al-Qaïda installés en Afghanistan, et les négociations de Doha l'ont bien montré, puisque les Américains avaient dit aux talibans, maîtrisez Al-Qaïda et pour nous ce sera bon. Et c'est ce que semblent avoir réussi à faire les talibans. Donc je ne suis pas sûr que la personne de Sirajuddin Haqqani soit si lointaine, opposant aux actuels dirigeants de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Émirat islamique d'Afghanistan.
Donc affaire à suivre, évidemment, et de très près. Merci Guillaume Fourmont.
Merci Eric Bataillon.
Rédacteur en chef de la revue trimestrielle Moyen-Orient. Alors le numéro actuellement en kiosque est le 51, consacré au bilan géostratégique de l'année. Sur quoi portera le numéro 52 ?
Les frères musulmans.
Eh bien le numéro 52, à venir en octobre sur le thème des frères musulmans. Merci. On vient d'écouter la jeune rappeuse afghane Sonita Alizadeh. Nous restons en Afghanistan puisque nous lisons maintenant la presse régionale de la semaine avec Alexandre Bouchantier au Caire et Michel Paul à Jérusalem et qu'il s'agit du premier sujet commun. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, les retombées de la prise du pouvoir par les talibans continuent d'occuper une large place dans la presse arabe.
Oui, et pour les journaux, notamment du Golfe, c'est le Qatar qui est le pays arabe qui a profité de cette situation. Le Qatar, qui a toujours eu de bonnes relations avec les talibans et qui est devenu aujourd'hui l'intermédiaire incontournable entre l'Occident et les nouveaux maîtres de Kaboul. Mais cette aura diplomatique n'inquiète pas les éditorialistes autant que la montée en puissance de l'Iran. Une puissance que la République islamique d'Iran commence à montrer à son entourage moyen-oriental. L'Iran a déjà accru sa présence en Syrie, augmenté son influence en Irak avant les élections et affermi la puissance du Hezbollah au Liban par le biais de livraisons de pétrole. Et pour certains experts, Téhéran a envoyé de nouvelles armes et munitions aux rebelles houthis du Yémen qui ont escaladé leurs attaques contre l'Arabie Saoudite, l'adversaire régional de l'Iran. Et les analyses prévoient une réaction similaire de la part du Hamas palestinien que l'Iran a toujours soutenu diplomatiquement et financièrement.
Justement, Michel Paul, les événements de Kaboul suscitent une certaine inquiétude en Israël.
Est-ce que la Cisjordanie va devenir le nouvel Afghanistan ? Demande le Jerusalem Post. Selon les experts cités par le quotidien, les avis diffèrent sur le sort de ce territoire palestinien en cas de retrait des troupes israéliennes. Et dans cet article, on trouve notamment un sondage d'un institut palestinien selon lequel 53% des personnes interrogées sont persuadées que c'est le Hamas qui est le plus à même de représenter le peuple palestinien. Pour Haaretz, en tout cas, il y a déjà un effet Kaboul. Qatar joue désormais un rôle prépondérant. Plusieurs pays revoient la nature de leur rapport avec la Turquie et cela va obliger Israël à en faire de même. Dès la semaine prochaine, une délégation égyptienne va se rendre à Ankara, souligne le journal israélien. Un spécialiste des États-Unis l'affirme, l'attentat de Kaboul prouve que le retrait américain d'Afghanistan était, on ne peut plus, justifié. Mais un autre expert estime que le président américain Joe Biden pourrait en fin de compte payer le prix fort de cette décision aux prochaines élections.
Alors, autre sujet qui intéresse la presse arabe, Alexandre, le sommet tripartite égypto-jordano-palestinien qui a eu lieu au Caire ce jeudi.
Oui, un sommet qui a réuni le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, le roi Abdallah de Jordanie et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Un sommet qui a réaffirmé l'attachement arabe à la création d'un État palestinien et la reprise des négociations en vue de parvenir à la solution de deux États. Un sommet dont l'objectif est de préparer une rencontre entre le président Sissi et le nouveau premier ministre israélien Naftali Bennett. Une rencontre dont la presse égyptienne ne parle pas pour le moment, mais qui serait imminente selon des journaux panarabes. À défaut d'une reprise des négociations directes entre Palestiniens et Israéliens, l'Égypte jouera les intermédiaires comme elle l'a déjà fait dans le conflit entre le Hamas et Israël, estime un commentateur.
Michel Paul, d'autres thèmes dans la presse qui retiennent tout particulièrement l'attention des Israéliens ces derniers jours.
Et tout d'abord, la loi budgétaire adoptée en première lecture. Cela ne s'était pas produit depuis 3 ans dans la coalition Cri Victoire. Mais attention, encore 2 lectures sont prévues à la Knesset, le Parlement israélien. Et comme le soulignent les éditorialistes, ce n'est pas dans la poche. Les médias font état d'une hausse du nombre d'Israéliens qui ont besoin d'aide pour boucler les fins de mois, plus 40%, et aussi un taux de chômage qui monte à 8,1%. Et l'autre sujet, Eric, qui préoccupe toujours les Israéliens, c'est la pandémie. La rentrée des classes a bien eu lieu. La semaine prochaine, les fêtes du Nouvel An juif vont pouvoir se dérouler presque normalement. Mais le nombre de nouvelles contaminations bat de nouveaux records dans un pays qui se targuait d'être le mieux vacciné au monde. Certains indicateurs laissent place malgré tout à de l'optimisme.
Et l'image que vous nous proposez cette semaine, Michel ?
Eh bien, c'est la photo de Barel Khadaria Shmueli, un garde frontière, tireur d'élite blessé d'une balle de pistolet à la tête à bout portant pendant une manifestation à la frontière avec Gaza. Il a succombé à ses blessures cette semaine. Sa mort et ses obsèques ont donné lieu à une vague de protestations contre le gouvernement israélien actuel et ont relancé également le débat sur les consignes de tir chez les militaires en Israël.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani que vous pouvez réécouter sur le site de la radio RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, 6e et dernier volet de notre série sur le pétrole dans le monde arabe, toujours avec l'historien Philippe Pétria, une série tirée de son livre « Au pays de l'or noir » publié chez Gallimard. Dans un instant, le journal en français facile, juste après ce court extrait d'Anna Chédid, qui participera vendredi prochain à un concert exceptionnel à l'Institut du monde arabe à Paris pour lever des fonds qui garantiront la tenue de la prochaine édition du mythique festival de Baalbek, emblème de la vie culturelle libanaise.
Entends-tu cette musique ?